Alors je vous demande de faire un triomphe et un tonnerre d'applaudissements pour notre camarade et ami Mario Rinaldi.
Chers amis, chers camarades, au nom des camarades, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à tous. Avant que nous passions à table, je veux vous dire quelques mots de l'actualité et des perspectives politiques que nous défendons. Ça craque de partout, les EHPAD craquent, les hôpitaux craquent, les universités et les prisons craquent. Il n'y a pas d'argent pour développer les infrastructures de transport, même pour les entretenir correctement. Pas d'argent pour construire les digues ou les bassins de rétention qui limiteraient les inondations. Macron n'a Dieu que pour la bourgeoisie et les machines à faire du fric. Pour elle, c'est champagne, caviar et Versailles. Les 32 plus riches du pays possèdent autant que 24 millions de personnes. Le premier d'entre eux, le patron de LVMH, Bernard Arnault, a vu son patrimoine s'accroître de 20 milliards d'euros l'année dernière, ce qui fait une augmentation de 38 000 euros par minute. Par minute. La machine à cash tourne à plein régime pour les multinationales, que ce soit Google, Facebook, Amazon, Apple, mais il y a aussi Peugeot, Renault, ArcelorMittal, Sanofi, Société Générale, Lactalis et d'autres. Et c'est pour elle que Macron a conçu les ordonnances travail et rendu moins cher et plus facile les licenciements. C'est pour elle qu'il a baissé la taxation du capital et pour les riches qu'il a supprimé l'impôt sur la fortune. L'État y a laissé 9 milliards. C'est 9 milliards de cadeaux faits à la bourgeoisie. Tandis que pour les maisons de retraite, le gouvernement a promis une rallonge de seulement 50 millions. Macron veut se défaire de son image de président des riches. Mais c'est bien ce qu'il est, et jusqu'au bout des ongles. Prenez son histoire d'augmentation du salaire net. C'est de l'escroquerie de haut vol. D'abord parce que ce n'est pas 260 euros de plus par an dont les petits salaires ont besoin, mais au moins de 260 euros de plus tous les mois. Pour beaucoup, cette augmentation ne compensera même pas la hausse du carburant, du gaz et des assurances. Et puis, c'est une escroquerie parce qu'il ne coûte rien au patron. Ce sont les retraités qui la payent dès qu'ils dépassent 1200 euros de pension. Et avec cynisme, le gouvernement a osé justifier cela en expliquant qu'il veut que, et je le cite, « le travail paye ». Mais les retraités qui ont passé leur vie au boulot, et qui ont parfois laissé leur santé, ils n'ont pas travaillé, eux. La réalité, c'est que c'est dans ces grandes sociétés capitalistes, le travail ne paye que lorsqu'on est du côté des exploiteurs. Comme disait Coluche, le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt, mais tôt ou tard, les capitalistes le paieront, parce que c'est ce genre d'ignominie qui fera éclater la révolte. À côté de ça, le gouvernement s'est jeté dans les réformes au nom de la modernisation du pays. La dernière en date, c'est la réforme, enfin, on devrait dire la casse, ce serait plus juste, de la SNCF. Suppression des lignes les moins fréquentées, ouverture à la concurrence, fin du statut des cheminots, c'est la poursuite de la privatisation de la SNCF, commencée sous Jospin il y a 20 ans. C'est le même processus de ce qui a eu lieu à France Télécom et qui a permis à des actionnaires privés de se goinfrer sur le dépeçage du service public du téléphone. Le 22 mars, les cheminots et toute la fonction publique sont appelés à la grève et à manifester contre les attaques gouvernementales. Nous sommes tous concernés car ce sont les services publics qui sont attaqués et il est à espérer que le 22 mars soit le début d'une mobilisation qui aille en s'amplifiant. Car le gouvernement attaque à tout va. En ce qui concerne les universités, il y aura 40 000 nouveaux bacheliers l'année prochaine dans les facs, mais aucun moyen supplémentaire pour les accueillir. Du coup, c'est la sélection qui est réintroduite pour limiter les inscriptions en fac, Et ce ne sont pas les jeunes des classes aisées qui seront bloqués à l'entrée de la fac, mais bien les jeunes issus des classes populaires. Voilà une raison de plus de participer aux grèves et aux manifestations du 22 mars prochain. Le gouvernement passe une couche de vernis sur tous les problèmes, mais n'en résout aucun. Pour l'école primaire, il a fait les CP à 12 élèves dans les zones d'éducation prioritaire. Mais comme il refuse à embaucher, il continue à fermer des classes. 214 classes devraient être fermées à la rentrée prochaine en Lorraine. Bref, il déshabille Pierre pour habiller Paul. Et prenez le problème du harcèlement sexuel et des inégalités entre les femmes et les hommes. C'est la même chose. Les ministres font de beaux discours et des coups de com', mais toute leur politique, la baisse des APL, la fin des contrats aidés, les lois Macron qui développent la précarité, vont rendre la vie de millions de femmes encore plus difficile. Et puis, il y a la rengaine de tous les jours. La France est en marche, la croissance est de retour, les créations d'emplois ont démarré, et on apprend que toutes les banques vont fermer des agences. Que Carrefour a programmé la suppression de milliers d'emplois, que PSA va encore en faire disparaître plusieurs centaines, et que l'État lui-même se lance dans un immense plan de suppression d'emplois social de 120 000 emplois. Alors quand bien même la reprise économique serait un tant soit peu durable, elle ne profitera pas au monde du travail. On le voit déjà dans toutes les entreprises. Est-ce que le grand patronat relâche la pression sur les travailleurs? Est-ce qu'il revient sur les sacrifices qu'il a imposés? Est-ce qu'il revient sur les sacrifices qu'il a imposés ces dernières années? L'allongement du temps de travail? L'augmentation des cadences ou blocage des salaires? Est-ce qu'il crée des emplois? Eh bien non. Chez Renault Sauvade, à Batilly, où je travaille, la direction a le projet de passer d'une moyenne de 53 véhicules produits par salarié et par an à 80. Soit une augmentation de près de 60% de la productivité. Ce sont nos nerfs, nos muscles, nos tendons que la direction veut broyer dans sa machine à faire du profit, alors que des milliers de jeunes sont réduits au chômage. Et tout ça pourquoi? Pour que les bénéfices de Renault explosent encore plus. Ils ont augmenté de 50% en 2017, avec plus de 5 milliards de profits. Le grand patronat a fait bondir son taux de profit précisément parce qu'il a renforcé partout l'exploitation et parce qu'il a accru le pillage des caisses publiques. Cela, il le poursuivra. Il ne renoncera jamais de son plein gré à ses profits. Tant qu'il n'y a pas de contestation du monde ouvrier, il poussera les avantages. Il profitera du rapport de force qui lui est favorable. Pour que cela change, il faut que les travailleurs défendent leurs intérêts contre le grand patronat. L'histoire du mouvement ouvrier montre que les travailleurs n'ont jamais rien obtenu que par les luttes. Il y a 50 ans, en mai-juin 1968, c'est la grève générale qui fit lâcher à De Gaulle une augmentation du SMIC de 35% et provoqua en moyenne une hausse des salaires réels entre 10 et 20%. En 1936, c'est la grève générale qui imposa la semaine de 5 jours, les 40 heures, les congés payés et les conventions collectives à un patronat tremblant devant les occupations d'usines. Et c'est sans parler des périodes de révolution comme la Commune de Paris de 1871 ou la Révolution russe de 1917 où les travailleurs ont réussi, ne serait-ce que pour un temps, à instaurer leur propre pouvoir. Bien des travailleurs, c'est le cas de nos camarades de travail, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, ne croient pas en la possibilité de telles luttes aujourd'hui. Quand il y a 5 millions de chômeurs et des millions d'autres qui sont condamnés à des petits boulots précaires et sous-payés, la lutte collective est en effet plus difficile. Mais les mobilisations des années 1930, où le chômage et la précarité étaient la règle, montrent que ces obstacles peuvent être renversés. Je le dis parce que la crise et le chômage n'expliquent pas tout. Il y a aussi le désarroi politique causé par les espoirs qui ont été placés dans les partis de gauche. Il y a le sentiment de trahison et l'amertume qui conduisent beaucoup de travailleurs trompés par l'électoralisme des partis de gauche à ne plus croire en rien. Contre cette désorientation et cette démoralisation, il n'y a pas de solution miracle. Seule l'existence d'un parti représentant les intérêts des travailleurs, avec la présence partout de femmes et d'hommes qui défendent des convictions et un idéal émancipateur, peut redonner la force politique et morale au monde du travail. L'indifférence politique, le repli sur soi, ou pire, le soutien des politiciens du monde bourgeois comme Le Pen, sont des impasses dangereuses. Tout ce que le Front National sait faire, c'est prôner la guerre entre travailleurs selon leur origine et leur nationalité, et dédouaner les exploiteurs et de leur responsabilité dans le chômage et les bas salaires. Il faut reconstruire un parti sur la base des idées de lutte de classe, sur la base des idées socialistes et communistes originelles. Les travailleurs n'ont pas besoin d'un énième parti de gauche qui les lanterne avec les élections, en leur faisant croire que leur sort peut changer par la magie d'un bulletin de vote. Les véritables maîtres de la société, les capitalistes à la tête des banques et des grands groupes, ne sont pas élus. Les grèves qui régentent l'économie, la concurrence, les lois du marché et du profit, l'exploitation des travailleurs et la lutte de classe qui oppose les classes capitalistes au monde du travail ne dépendent pas de quel politicien bourgeois est à la tête de l'État. Les travailleurs ont besoin d'un parti qui milite au sein de la classe ouvrière, dans les entreprises et dans les quartiers populaires, pour qu'ils retrouvent confiance en eux-mêmes et renouent avec la conscience de classe. On le voit aujourd'hui avec les oppositions artificielles entre Français et étrangers, travailleurs en activité et chômeurs, ou encore salariés du privé et du public. Tout est fait pour casser les liens de solidarité et de confiance que les travailleurs peuvent tisser. Les valeurs de la bourgeoisie, l'enrichissement personnel et le culte de l'individualisme sapent constamment la conscience collective d'appartenir à une classe sociale. Seule l'intervention consciente des militants et d'un parti peut assurer la pérennité de cette conscience de classe. Et ce parti doit toujours et encore se revendiquer des idées communistes et révolutionnaires. C'est-à-dire se revendiquer de l'expropriation de la bourgeoisie et des moyens de production et de leur mise en commun. Et il n'y a pas de solution intermédiaire. On peut limer les dents d'un requin, mais elles repoussent. Et le combat est sans cesse à recommencer. Alors il ne s'agit pas seulement de limiter l'exploitation, il faut la supprimer en contestant à la bourgeoisie la direction de la société, c'est-à-dire en l'expropriant. Ce n'est pas une question de justice sociale. Il en va de la survie même de l'économie et de la société. La bourgeoisie nous est toujours présentée comme une classe indispensable, la seule qui serait en mesure d'entreprendre et d'investir. C'est d'ailleurs au nom de l'investissement que tous les gouvernements qui se succèdent depuis des décennies font des pandores à la bourgeoisie. Il s'agit toujours de l'inciter et de lui donner envie d'investir. Au bout du compte, elle encaisse les cadeaux et on attend toujours les investissements. La bourgeoisie est une classe de plus en plus parasitaire. Non seulement elle tire de sa fortune exorbitante de l'exploitation de générations de travailleurs, mais elle ne se donne même plus la peine de développer la production. Son activité principale consiste à boursicoter et spéculer sur les marchés financiers. Regardez ArcelorMittal qui pleurait misère il y a 2 ans. Il vient d'annoncer près de 5 milliards de profits, alors que près de 100 000 emplois ont été supprimés en Europe par les patrons de la sidérurgie ainsi que 10 millions de tonnes de capacité de production. La bourgeoisie est une classe parasitaire et irresponsable dans tous les sens du terme. Les scandales sanitaires à répétition le montrent. On a connu la vache folle, le Mediator, les prothèses PIP, les moteurs truqués de Volkswagen, Renault et PSA, le lait pour bébé de Lactalis, empoisonné à la salmonelle, et plus près d'ici, les déchets d'acide rejetés sur le crassier d'Arcelor à Machepin. Les multinationales n'ont aucun scrupule, et on n'est pas au bout de nos surprises. La bourgeoisie est irresponsable, car elle a érigé le profit en Dieu tout-puissant. Cette course au profit est dangereuse et criminelle. Elle l'est dans les transports, elle l'est dans l'agroalimentaire, dans la santé, dans le domaine de l'énergie et du nucléaire, et ce sera la règle tant que la bourgeoisie régnera. Et à cela, il faut ajouter les menaces guerrières, le terrorisme, ainsi que la catastrophe écologique qui entraîne les dérèglements climatiques. Le combat des travailleurs pour se libérer de l'exploitation se confond avec celui pour l'émancipation de la société du capitalisme. C'est pourquoi, je le redis, le parti qui représente les intérêts matériels et politiques des travailleurs se doit aussi être un parti révolutionnaire communiste. Un parti qui vise le renversement du capitalisme et la construction d'une société et d'une économie débarrassée de la concurrence et de la loi du profit, une société sans classe, une société communiste. Nous militons pour que les travailleurs défendent leurs intérêts et pour qu'ils accèdent à la conscience que la tâche de transformer la société dépend d'eux et qu'ils en sont capables. Les grands médias et les politiciens nous expliquent que sans la bourgeoisie, rien ne se ferait car c'est elle qui entreprend et qui sait diriger. Mais dans l'écrasante majorité des cas, la bourgeoisie ne dirige pas. Elle encaisse. Pour diriger ses entreprises, elle paye du haut en bas de la hiérarchie toute une armada de mercenaires obsédés par la rentabilité. Et c'est sur les ouvriers, les employés, les comptables, sur ceux au bas de l'échelle que retombent les problèmes et les conséquences de leurs décisions, souvent imminentes. Dans les entreprises, ce sont les travailleurs qui connaissent le travail, résolvent les problèmes techniques et font tourner la boutique. Mais parce qu'on leur assène qu'il faut des patrons pour diriger, ils ne croient pas en leur capacité collective. Et c'est la même chose à l'échelle politique. On nous rabâche que pour faire fonctionner l'État, il faut avoir fait de hautes études, appartenir aux élites. Parce que certains seraient qualifiés pour diriger, il faudrait les laisser faire. Non, il faut s'opposer à cette idée-là. Oui, les travailleurs et les classes populaires sont tout à fait capables de diriger la société. Prenez les salariés des EHPAD qui se dévouent côté des anciens pour un salaire de misère. Prenez les ouvriers qui s'esquintent la santé sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. Prenez les ouvriers des chaînes de montage. Prenez les bataillons du nettoyage, du gardiennage et de la grande distribution. Ces femmes et ces hommes savent ce que cela veut dire travailler et devoir se serrer la ceinture. Ils représentent 1000 fois mieux la vie et les intérêts de la majorité de la population. Eh bien, lorsqu'ils seront entraînés dans de grandes luttes, ils réaliseront ce qu'ils sont capables de faire ensemble. Et nul doute qu'ils accédaient au pouvoir, ils auraient, eux, la priorité de satisfaire les besoins essentiels des plus pauvres. Et tous les problèmes qui apparaissent aujourd'hui comme insolubles, loger tout le monde, soigner, donner du travail et de l'éducation à tous, accueillir les migrants, trouveraient leur solution. Alors, vive le lutte des travailleurs, vive les idées communistes révolutionnaires et vive l'internationalisme. Avant de, comme de coutume, de chanter le chant des travailleurs d'International, je voudrais vous appeler à venir manifester mardi prochain à 14h, place du Parvis des droits de l'homme à Metz, à l'appel des associations et des partis politiques, dont nous, Lutte ouvrière, pour un accueil digne des migrants. Voilà.